Posons-nous les bonnes questions pour accélérer la transition écologique des collectivités. Avec Territoire et Sobriété, le podcast de l'ADEME et du ministère de la Transition écologique, partons pour un tour de France d'initiatives locales en faveur de la sobriété matérielle. Retrouvez les épisodes sur www.epargnonsresources.gouv.fr/collectivité.
Vous écoutez
RMC. RMC Estelle Midi.
13h03 sur RMC, RMC Story. On va poursuivre Estelle Midi avec le mécontentement du jour. Et c'est celui de 82% des Français qui se disent en colère contre la politique du gouvernement. Un chiffre très haut, alors même que les syndicats fustigent un président méprisant et indifférent à la colère des Français sur la réforme des retraites, Rémi.
Oui, sauf que le président de la République vient de leur répondre. L'intersyndicale avait envoyé un courrier à Emmanuel Macron il y a quelques jours, lui demandant notamment d'entendre la colère du pays et d'être reçu en urgence à l'Élysée. Et donc, Emmanuel Macron leur répond dans un courrier en date du jour. Le chef de l'État écrit notamment ne pas sous-estimer le mécontentement et les angoisses. Il ajoute que les concertations ont eu lieu avec les syndicats sur la réforme des retraites et que des concessions ont déjà été faites. Enfin, le chef de l'État salue l'organisation des manifestations qui s'est faite dans un esprit de responsabilité qui honore les syndicats. Vous l'aurez compris, le chef de l'État donc reste inflexible.
Mais oui.
Et Emmanuel Macron n'esquisse aucun moment un recul sur le texte et précise que le gouvernement reste, selon lui, à l'écoute. Un gouvernement, toujours d'après lui, qui n'est pas resté silencieux et d'expliquer « J'ai moi-même répondu aux questions des Français à ce sujet à plusieurs reprises sur le terrain. » Fermez le banc, il y en a là.
Je crois que les Français n'ont pas entendu. Manifestement, il faudrait peut-être qu'il recommence. Emmanuel Macron doit-il justement sortir de son silence? Thierry Moreau.
Alors, il a intérêt à parler, mais pas tout de suite, bien évidemment. Il n'a aucun intérêt, d'ailleurs, aujourd'hui, à recevoir les syndicats.
Il ne va pas parler une fois que ce sera fait.
Il a... Si, parce qu'il parlera
d'autres choses. C'est ce qui se dit. Selon les informations de BFM TV, il y aura une allocution officielle qui serait faite une fois la réforme votée, une fois le mouvement social.
Bien sûr. En fait, il n'a pas intérêt à recevoir les syndicats aujourd'hui. Pourquoi? Parce que le gouvernement faiblit, le gouvernement est en train, mouvement faiblit, le mouvement est en train de se radicaliser. Si jamais il recevait les syndicats, ce serait pour leur dire, je ne vais pas changer l'âge de la retraite à 64 ans. Donc, il remettrait de l'huile sur le feu et il y aurait un risque de remettre le mouvement en marche. Donc il n'a aucun intérêt à recevoir les syndicats aujourd'hui à l'heure actuelle. En revanche, il a intérêt à prendre la parole une fois que ça c'est fait et il veut très vite refermer la parenthèse, d'où le vote bloqué d'ailleurs au Sénat, d'où sans doute s'il n'a pas la majorité à l'Assemblée nationale le 49-3 pour plier très vite ce dossier et prendre la parole.
Vous allez voir comment ça va être plié s'il fait un 49-3.
Ah mais je pense que alors là ça va coûter cher, je pense, à un certain nombre de ministres qui n'ont pas forcément fait très bien leur travail. Je pense notamment aux ministres avec leur relation avec le Parlement, qui normalement doit être sur le pont nuit et jour 24 heures sur 24, parce que à l'époque où Michel Rocard avait une majorité relative, son ministre des Relations avec le Parlement, son cabinet, tout le monde était
on
sur le pont.
Qui c'est le ministre des Relations avec le Parlement?
Pardon?
On rappelle qui c'est?
C'est Franck Riester. Et je pense que lui, s'il y a un remaniement, il part. C'est obligé. Parce que
d'ailleurs, on ne l'entend plus.
Il n'a pas fait son travail. Normalement, il doit être au téléphone avec tout le monde pour justement rameuter les troupes, faire en sorte que tout le monde soit soudé.
Il a fait son travail. Il nous a bien dit que la réforme était mauvaise. Donc,
oui.
Donc il a été sympa de nous prévenir.
Donc, pour revenir à ce que vous disiez, ça risque de coûter cher au gouvernement, peut-être même à la Première ministre, mais que le président prenne de la hauteur et intervienne une fois que la parenthèse est terminée. Pour s'intéresser à d'autres dossiers qui lui sont à cœur, c'est-à-dire l'emploi, la fin de vie, l'immigration, tous les dossiers qui vont arriver.
Mais là aujourd'hui, les Français, ces dossiers-là, ils s'en fichent complètement.
L'emploi, je ne suis pas sûr, parce que justement...
Actuellement, l'emploi, il marche bien. Donc s'il y a bien un dossier, là, pour le moment, où je veux dire, il n'y a pas trop de soucis, c'est celui-là.
Oui, enfin, il y a aussi des choses à faire.
L'éducation.
Voilà,
l'éducation. Il faut prendre la parole pour parler d'éducation.
La santé aussi,
qui sont quand même des priorités.
C'est pas ce sur quoi tu veux l'entendre aujourd'hui. Aujourd'hui, tu veux l'entendre sur la réforme des retraites. Alors bien sûr, il en a un peu parlé à Rungis, il en a un peu
au
parlé
au salon de l'agriculture.
Au salon de l'agriculture, mais enfin, c'est des trucs comme ça.
Mais parce qu'il campe sur ses positions. Donc de toute façon, il ne veut pas bouger.
Français quand il est au salon de l'agriculture.
Il ne veut pas bouger l'âge à 64 ans. Donc c'est plié, c'est terminé,
mais
ça va être voté.
Que ça dans cette
On passe à autre chose. Les modalités, les décrets, c'est encore autre chose. C'est un autre sujet. Mais il n'a pas du tout intérêt à descendre dans l'arène maintenant. En revanche, prendre la parole après pour passer à autre chose, je pense que c'est fondamental.
Non, mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, les syndicats sont campés aussi sur leur position. C'est-à-dire que les syndicats ne demandent pas à rediscuter certains points de la réforme.
Ils veulent le retrait
total de la réforme.
Et ben tu sais quoi, il les reçoit et il leur dit ça ne se fera pas pour telle
raison. C'est pire
quoi,
que tout, vois, ça relancerait le mouvement.
Enfin depuis quand le dialogue c'est pire que tout? Enfin j'ai jamais vu ça quand même.
Non, pardon. Mais un dialogue où on dit à quelqu'un je ne bougerai pas sur ma réforme, ce n'est pas un dialoque et donc c'est pire que
c'est
tout.
Il faut mieux qu'il réponde par une lettre.
Peut-être que s'il le dit de manière gentille, on ne sait jamais.
Je suis pas sûr.
Benjamin
Muller. Ça fait quand même un an là, moi je trouve, hein, ouais. Entre l'annonce dans son programme. Il y a un premier recul où de part il parle de 65 ans puis 64 ans. Après il y a des débats, en veux-tu en voilà, des concertations, quand même quelques concessions, notamment sur la pénibilité, etc. Un débat interminable à l'Assemblée, interminable au Sénat. C'est bon maintenant. Il était en voyage officiel en Afrique la semaine dernière, oui. Et on lui a posé la question. Alors est-ce que vous allez prendre la parole? Et il a répondu, je trouvais ça génial. Mais pour dire quoi? Qu'est-ce que vous voulez qu'il dise? Il a tout dit, ça fait un an. Qu'est-ce qu'il va dire de plus? Effectivement, comme les syndicats veulent pas faire, en gros, on peut parler de tous les articles, Estelle. Le problème, c'est 62, 64 ans. C'est tout, c'est le seul truc.
Ça, on est d'accord, c'est mort. Mais regarde l'auditeur qui nous a appelé les boueurs de tout à l'heure, Christophe. Christophe, il dit, ce qui le gêne, c'est de savoir si lui, en fait, qui fait un métier pénible, s'il va partir à 64 ans ou pas. Et c'est en ça que la réforme, elle a été tellement mal expliquée.
C'est là où le gouvernement est nul, parce que ça, c'est pas Macron.
Macron, il est très bon, mais il sait être très pédagogue. On l'a vu sur le débat de l'entre-deux-tours. Il sait expliquer, il parle bien, etc. Et les Français, aujourd'hui, ils ont envie de l'entendre lui. Ils n'ont pas envie d'écouter Franck Riester.
Je ne sais pas s'ils ont envie de l'entendre
c'est
lui.
C'est pas ça.
Et juste, moi, à mon avis, ça passera au final ou pas par un 49-3. On va voir, parce qu'il y a des comptes d'apothicaire. Mais juste, sur Michel Rocard, c'est marrant que vous citiez Michel Rocard. Michel Rocard, il a fait 28 fois, je crois, je me suis noté ça, ouais. 28 fois recours au 49-3, et ça n'a pas déclenché des scandales. En fait, quand il y a une majorité relative, on n'a pas trop de possibilités. C'est dans la Constitution. Je suis pas sûr, Estelle, que ça ferait un bardage.
On a quand même l'impression que ça se tend, hein. Depuis le 7 mars, on a parlé de la découpure de la CGT, on voit la grève des éboueurs. Oui, il y a une sorte de radicalisation, là, actuellement. Est-ce que, justement, pour couper court à cette radicalisation, Emmanuel Macron doit prendre la parole, Emmanuel?
Non, justement. Moi, je suis complètement d'accord avec Thierry. J'avais exactement écrit la même phrase. Ça mettrait de l'huile sur le feu. Il faut surtout pas qu'il fasse. Et puis, effectivement, pour dire quoi? Pour dire quoi? Et pourquoi les syndicats, ils insistent? Parce que si Macron ouvrait le dialogue, ça relancerait le mouvement. Il a deux soldats, Macron. Lui, c'est le général d'armée. Il n'est pas sur le front. Il a deux soldats sur le front. Elisabeth Borne, qui peut-être devrait recevoir, pour le coup, les syndicats, et Olivier Dussopt. Et c'est ces deux-là qui vont aller au feu et qui vont être fusillés. Et je reste sur ma thématique guerrière. Ouais. C'est les deux soldats qui sont au front et qui sauteront certainement. Mais si Macron acceptait, ça relancerait le mouvement qui est en train de s'éteindre. Il se radicalise parce qu'il est en train de s'éteindre. Et il demandera un retrait parce qu'ils savent qu'il n'y a plus de négociation possible. C'est fini. C'est plié.
Sauf que, je suis désolée, pendant la campagne présidentielle, il ne voulait pas débattre. Là, il ne veut pas parler. Et il y a quand même un moment où les Français, ils ont envie de l'entendre.
Mais stratégiquement, voilà. Du point de vue du président de la République, je serais son conseiller. Moi, je lui dirais, n'y va pas. Mais de l'autre côté,
je dirais l'inverse.
Évidemment que tu as envie qu'il y aille. 90% ont envie qu'il parle.
Moi, j'ai envie de l'entendre,
évidemment.
Là-dessus.
Mais stratégiquement, il n'ira pas. Et il ira après, une fois que tout sera s'appliqué.
Il a quand même dit, après son élection, que ce score l'obligeait, en fait.
Oui.
Voilà. Et là, ça l'oblige aussi à parler aux Français. Il y a un moment où tu ne peux pas rester dans ta tour d'ivoire et ne rien faire.
C'est quelqu'un qui ne sera pas réélu, Macron.
Il joue
sa place dans l'histoire, là. C'est ça qu'il est en train de jouer son quinquennat et sa place dans l'histoire.
Il va laisser quelle trace dans l'histoire, là?
Celui qui a réussi à faire la réforme que personne ne réussit à faire depuis 30 ans.
Enfin, là, elle a déjà été tellement détricotée que ça m'étonnerait.
Non, parce que ce qu'on retiendra, c'est s'il maintient 64 ou 62. Et pardon, mais au final, lui, il en sortira grandi s'il maintient les
62. Il y a d'autres réformes derrière auxquelles il tient beaucoup.
Oui. On va voir ce qu'en pense Elias, qui nous appelle de Loos, dans le Nord. Bonjour, Elias.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, Elias, dans Estelle Midi. On parle d'Emmanuel Macron, étrangement silencieux depuis le début, hein, dans ce dossier de la réforme des retraites, même si c'est plutôt le boulot d'Elisabeth Borne. Elias, est-ce que vous attendez que le président sorte de son silence?
Oui, personnellement, je pense que Monsieur Macron, il doit sortir de son silence, parce que depuis le début de l'épisode des retraites, si on peut appeler ça comme ça, on l'entend très peu, à part sur les quelques petites sorties au marché de Rungis et au salon de l'agriculture.
Ouais.
Et aujourd'hui, notamment sur le mouvement, ça va faire un peu plus d'un mois qu'on a des contestations, qu'on sentait qu'il y allait avoir un mouvement social qui allait se créer, qui allait naître. Et on s'étonne aujourd'hui, notamment aussi sur votre radio, qu'il y ait une certaine radicalisation du mouvement. Mais ce mouvement, il a commencé avec beaucoup d'incompréhension. Et logiquement, si on laisse les gens pendant plus d'un mois dans la compréhension, je trouve ça absolument normal qu'il y a la colère. La compréhension devient de la colère. Donc on peut pas, je pense qu'on peut pas taper que sur le mouvement qui se radicalise, comme on dit. Et on a notamment un gouvernement qui n'est pas du tout exemplaire ces derniers temps, Hein, il y a juste à prendre la semaine dernière pour voir qu'il y a eu quelques petites sorties qui sont totalement honteuses, je trouve. Et en tant que leader du gouvernement, il doit assumer son rôle. Et j'aimerais rajouter une petite chose, hein, c'est que le gouvernement, il est censé être au service des Français. La démocratie, ça vient de démos, le peuple. C'est quelque chose qu'on oublie beaucoup. Et aujourd'hui, on parle surtout beaucoup de finances. Oui. Et aujourd'hui, en entreprise, si moi, demain, en entreprise, je propose un plan d'optimisation des finances à mon responsable, si je lui propose qu'une piste, je vais me faire rejeter. Là, on n'a eu qu'une piste aujourd'hui qui nous a été présentée.
Ben non, Elias, parce qu'en fait, alors c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a eu une autre piste en 2019, et c'est marrant, parce que alors, tout le monde l'a détesté en 2019, et puis là, maintenant, tout le monde dit, ouais, c'était pas mal, 2019, finalement.
Évidemment.
Donc, il y a eu d'autres choses, et puis encore une fois, il y a quand même eu, je veux dire, à un moment, un dialogue, même s'il a été rompu assez vite avec les syndicats. Mais vous, Elias, vous aimeriez qu'ils vous disent quoi, le président de la République, à part j'enlève mon texte?
Qu'il enlève son texte. Parce qu'aujourd'hui, on a aussi les jeunes comme moi qui sont pas mal stigmatisés, je trouve, sur l'ensemble des plateaux télé et des médias. On entend souvent qu'est-ce que font les jeunes dans les manifestations, pourquoi ils pensent à la retraite. Ces jeunes, vraiment, ils sont fainéants, ils viennent d'entrer dans le marché du travail où ils n'ont pas encore commencé le travail, ils pensent déjà à leur retraite. Mais il y a un élément central, je pense, qui a été oublié, c'est que nous, en tant que jeunes, et moi, personnellement, je pense à mes parents, en fait. Mes parents, ils sont directement impactés par cette réforme. Mon papa est manutentionnaire. Ma maman, elle a été aide-soignante pendant un peu plus de 20 ans. Moi, je vois directement, je le vois tous les jours, l'impact de 20, 30, 40 ans de travail sur le corps humain. Alors, je suis désolé, peut-être dans le gouvernement, on a des personnes qui n'ont pas fait ces métiers. Moi, personnellement, j'ai fait pas mal de métiers dits compliqués pendant mes études. Donc, je comprends ce que c'est que d'être 8 heures de suite devant une machine qui fait un bruit horrible avec des vibrations de porter des charges. Et j'ai l'impression qu'au gouvernement, on méprise totalement. Si on reprend le point aussi de, par exemple, monsieur Dussopt, qui, désolé, mais au bout d'un moment, on n'est plus sur de la précision des chiffres. Là, on est clairement sur du mensonge.
Non mais ça, vous avez raison, et c'est vrai qu'on l'a dit, il y a eu une espèce d'impréparation de ce dossier qui est hallucinante. Et quand on nous dit tous les gens toucheront 1 200 € à la retraite, ah ben non, finalement c'est 20 000 personnes. Non mais là il y a une grave erreur du gouvernement. Mais encore une fois, Emmanuel Macron, il est plutôt doué là-dessus. Mais ce qu'on sent dans ce que vous dites, Elias, c'est ce qu'on sentait également dans ce que disait Christophe au début de cette émission, c'est que en fait les Français aujourd'hui, ils veulent avoir des renseignements, en fait. Alors évidemment, ils peuvent appeler assistance retraite au 3615, mais enfin je veux dire, à un moment, ils ont besoin qu'on leur explique. Et cette réforme,
sauf que
elle
c'est
a
pas
été
Emmanuel
trop
Macron
mal expliquée.
Qui peut le faire au cours d'une intervention en expliquant dans le détail la réforme des retraites.
Il a mal choisi ses ministres.
Alors ça, je suis d'accord. Où Elias a raison, en fait, c'est que non seulement la concertation a été très faible, mais ensuite la communication a été désastreuse.
Mais lui, il est bon en com.
Et aujourd'hui, il ne peut répondre qu'une chose. Soit je retire le texte, qu'il ne fera pas. Soit il va pas se lancer dans un truc de 3 heures pour expliquer la réforme.
Il peut te dire, ok, c'est 64 ans, mais déjà il peut te rappeler qu'en fait les Français partent en moyenne à la retraite. 63,6 ans, mais surtout te dire attention, vous vous inquiétez pour vous, votre situation, parce que vous faites un métier pénible, ce sera pris en compte. En fait, il peut rassurer. Bien sûr qu'il ne va pas enlever l'âge légal de départ à la retraite, mais il peut rassurer les gens.
Est-ce que les Français ont encore envie d'entendre ?
C'est ça.
Regarde, Elisabeth Borne, il y a 3 semaines, elle est restée pendant 2 heures à la télé pour expliquer, il y a 4 semaines, je ne sais plus, pour expliquer quel était le contenu exact de la réforme.
Je ne sais pas si c'est la meilleure pour faire preuve d'empathie. Je ne suis pas sûre. Et là, les Français, ils ont besoin qu'on les berce un peu, qu'on fasse preuve d'empathie. On va demander ça à Olivier Roucan, c'est notre invité sur ce débat. Il est politologue et enseignant, chercheur. Bonjour Olivier.
Bonjour.
Et merci d'être avec nous sur RMC dans Estelle Midi. Est-ce qu'Emmanuel Macron doit prendre la parole et essayer d'apaiser les tensions dans ce pays ?
C'est trop tard. Il aurait dû le faire pendant la campagne présidentielle à fond, puisque c'est son projet, il le veut. Depuis lors, il l'avait annoncé. Or, cette campagne présidentielle, on refait pas le film, a été quand même très fade. Et depuis, il n'y a pas eu, vous avez parlé d'une impréparation de texte, il n'y a pas eu l'effort de communication, de pédagogie qui aurait dû être fait sur un tel sujet. Sans dire que c'était parfait, mais on peut se rappeler quand même que quand on veut faire des réformes sociales sur l'état-providence d'une telle ampleur, il est bon quand même, en tout début de mandat, de lancer des grandes conférences, des Grenelles. Ça a été fait par le passé, notamment par François Hollande, le prédécesseur, mais pas seulement. Donc, il y a un manque de... non seulement de d'information, de pédagogie, mais un manque de dialogue qui aboutisse à des négociations. Parce que le dialogue, ça doit quand même, dans le cadre en France des concertations syndicales aboutir à être en mesure d'écouter des propositions qui viennent des syndicats, de d'autres groupes d'intérêt et les intégrer au projet. Bon. Troisième remarque par rapport à tout ce qui a été dit, peut-être que une des raisons du fait qu'aujourd'hui on arrive à ces impasses, c'est que les réformes ont-elles vraiment été préparées par le gouvernement, ou est-ce que c'est l'Élysée qui, de façon descendante, a embarqué la Première ministre et les ministres là-dedans? Ce qui expliquerait d'ailleurs des erreurs ensuite de communication par manque d'appropriation. C'est-à-dire que ce quinquennat avec un président qui veut aller vite, ça enlève de la marge de manœuvre au gouvernement pour bien négocier et préparer les réformes avant qu'elles n'arrivent devant le Parlement.
Mais pourquoi vous dites que c'est trop tard, Olivier Roucan? Parce que, est-ce que vous pensez que là, si Emmanuel Macron prenait la parole, ce serait contre-productif?
Mais parce que vous l'avez dit, c'est le pire moment. Et, on garde un taux de personnes absolument vent debout contre ce texte. C'est important pour que le message soit entendu. Et puis surtout, il y a des institutions et il y a des rôles. Et le président, maintenant, au point où ça en est, il n'interviendra qu'en dernier ressort, une fois que le cycle parlementaire sera achevé, éventuellement au niveau des conseils des ministres, pour dire oui, alors il faut utiliser le 49-3. Mais à l'heure actuelle, ils viennent de sortir le 44-3 pour aller plus vite. Ouais. Donc un élément supplémentaire d'ailleurs pour remonter l'opposition contre la marche des choses. Mais le président, c'est l'arbitre en dernier ressort maintenant. C'est trop tard ou trop tôt, si vous voulez, voilà, pour être complet.
Alors restez avec nous, Olivier Roucan. On a beaucoup de messages sur l'appli RMC sur ce sujet. Rémi, est-ce que les Français veulent entendre Emmanuel Macron?
Alors j'ai ce message par exemple de Tuc Dual qui nous dit: bonjour l'équipe, je pense que Macron peut parler mais ça ne changera pas grand chose. Les gens qui sont en colère contre Emmanuel Macron et dont la façon qu'il a de gérer le pays en général, ils seront en colère pour des raisons différentes, voire carrément opposées, entre ceux qui trouvent que Emmanuel Macron est trop de gauche, ceux qui trouvent qu'il est trop de droite, ceux qui trouvent qu'il est trop mou pour appliquer son programme. Oui, ça existe, ça donne un pays compliqué où aucun politicien ne satisfera une majorité.
On a quand même l'impression qu'on est un peu assis sur une poudrière là, Emmanuel Dancourt, et on se dit que Emmanuel Macron justement risque de passer par le 49-3 parce qu'il risque de pas avoir de majorité sur ce texte. Est-ce que ce serait une énorme erreur, ou alors est-ce que maintenant qu'il est parti, il faut qu'il y aille, quoi, tout simplement, quoi?
Moi, de toute façon, il me semble-t-il, j'essaye d'analyser ça à la tête froide, il ira jusqu'au bout. Donc, s'il faut choper le 49-3, ils iront choper le 49-3. C'est vrai que c'est... On disait tout à l'heure que Franck Riester faisait pas grand-chose. Riester et Dussopt, qui sont quand même deux fins connaisseurs du Parlement, ils passent des coups de fil dans tous les sens en ce moment. Ce sont des gens qui passent. Non, mais pour essayer, parce qu'il y a beaucoup de gens à l'Assemblée qui savent pas, en fait. Il y a beaucoup d'indécis encore, qui savent. Donc on ne sait pas où ils vont aller. Ils sont peut-être même pas sûrs de même d'où ils vont aller. Puis il y a des gens, on sait que non, ils vont être.
Si cette réforme était claire, peut-être que les gens sauraient où ils vont aller.
Mais déjà à l'Assemblée, c'est compliqué. Et donc ils passent des coups de fil dans tous les sens, mais ça suffira sans doute pas. Et c'est mercredi qu'on va avoir on va avoir le mot un peu final de tout ça, finalement.
Ça va être quelque chose la semaine qui vient.
Mercredi.
Gabriel est avec nous, il nous appelle d'Adissan dans l'Hérault. Bonjour Gabriel.
Bonjour tout le monde.
Bonjour.
Et Gabriel, est-ce que vous avez envie d'entendre Emmanuel Macron ou pas du tout?
Non, pas du tout. Je pense que maintenant, la discussion, enfin le moment de discuter, je pense qu'il est passé. Je pense qu'il faut passer à l'action. En fait, il faut trancher au moment, il faut aller de l'avant. Ouais. Je vois pas du tout. En fait, tout le monde est d'accord sur le plateau pour dire quasiment qu'en fait, il a plus rien à dire.
J'ai quand même envie de l'entendre, même s'il a rien à dire.
Oui, vous voulez qu'il retire le texte, ou c'est pour entendre quoi? Parce qu'en fait,
je voudrais entendre ses explications, moi.
Mais en fait, il y a tous les ministres qui l'expliquent depuis assez longtemps. Il y a toutes les institutions financières qui l'expliquent aussi. Franchement, il faut pas. Bon, regarde, moi, je vous donne une anecdote. J'ai 33 ans aujourd'hui. J'ai contacté un prêt étudiant lorsque j'avais 20 ans pour mes études. Mon banquier à l'époque m'avait dit, de toute façon, quand tu auras l'âge de la retraite, tu n'auras pas de retraite.
Voilà. Mais moi aussi, on m'a déjà dit, je suis plus âgé que vous.
Oui, mais en plus, les institutions financières aujourd'hui sonnent la sonnette d'alarme par rapport à la France, par rapport au système qu'on a, parce qu'on a trop, on n'a pas assez d'actifs, on commence à avoir trop de retraités. C'est super simple, en fait. Après, il y a un autre truc aussi qu'il faut dire, c'est qu'en fait, la raison pour laquelle il faut acter maintenant, c'est, pour l'instant, c'est 64 ans, mais ça se trouve, dans 10 ans, dans 15 ans, on va revenir sur la réforme, en disant, mais en fait, 64 ans, c'était pas assez, peut-être qu'il faudrait faire pousser un petit peu plus.
Oui.
68 ans.
C'est pour ça qu'il faut gagner du temps.
Oui, mais c'est pas un produit fini, une réforme. Il faut passer les 64 ans. Une fois que ce sera mis en place, alors peut-être qu'on pourra revenir dessus. On verra, on adaptera en fonction effectivement des personnes qui ont des métiers qui sont super pénibles. Je pense à ma tante notamment qui est infirmière, qui a 62 ans, qui a les épaules qui sont flinguées, les genoux aussi.
Bien sûr.
J'aimerais pas qu'elle continue jusqu'à 64 ans. Donc pour ces personnes-là, effectivement, c'est un peu les régimes spéciaux qu'on avait auparavant. Il faut pouvoir faire quelque chose, mais il faut qu'on puisse passer la barre de 64 ans. Il est déjà revenu de 65 à 64 ans.
C'est vrai.
Il a donné qu'un an. Mais c'est vrai, il est déjà revenu.
Vous avez raison de le rappeler, bien sûr.
Voilà. Moi, je pense que dans le futur, et franchement, c'est une prédiction peut-être qui est un petit peu pessimiste, mais je pense que dans le futur, on rediscutera encore de la réforme dans 2-3 mandats. On verra quel président on aura d'ici là. Pour, en fait, pour repousser l'âge.
On s'en fout, sera la retraite.
Non, je moi non. Peut-être oui, mais moi non. Mais encore une fois, moi, je compte pas du tout sur la retraite. Moi, je travaille 7 jours par semaine. Je m'en fiche. Je travaille 10 heures par jour, 12 heures par jour. Pour pouvoir me garantir un avenir relativement paisible. Mais voilà, c'est après, d'un point de vue financier, c'est pas possible. En France, on donne beaucoup.
Ah ben non, les mauvais élèves de l'Europe, ça c'est sûr. Non mais ça
voilà,
c'est sûr.
On est mauvais élèves d'Europe de ce côté-là. On donne beaucoup d'aide. Après, ça veut pas dire que, effectivement, j'entends aussi le cri des gens, parce qu'en fait, les personnes qui sont dans la rue sont aussi des personnes qui ont des petits salaires. Ça faut pas l'oublier. Donc c'est des personnes en fait qui.
Oui, Bernard Arnault n'est pas descendu là, par exemple.
Oui, non, exactement. Donc c'est des personnes qui vivent très petits, et qui du coup se disent qu'ils vont devoir vivre encore très petits et travailler pendant très longtemps. Donc ça, ce sont des cas qui sont assez particuliers. Malheureusement aujourd'hui, ça commence à devenir une vaste majorité. Mais voilà, il y a plein de sujets à traiter. Il faut passer 64 ans. Il faut aller de l'avant.
Il n'y a pas besoin de parler.
Et puis voilà, il faut envoyer.
Merci Gabriel. Oui, Benjamin.
Gabriel, vous bossez, hein, c'est ça que vous disiez. Vous avez un métier. Parce que moi, je trouve que vous ferez un formidable porte-parole de cette réforme ou de Macron. Oui. Il vient de tout résumer en 2 minutes.
Il est meilleur que Franck Riester.
Ah bah, et largement meilleur. Et donc Gabriel a 33 ans, si je dis pas de bêtises, donc fait partie de ces jeunes. Et quand tout à l'heure Elias nous disait, moi, je suis jeune, certes, mais je pense à mes parents. J'avais envie de lui répondre. Moi, j'ai globalement le même âge que Elias et Gabriel, et moi, je pense pas à mes parents, je pense à mes enfants. Et en fait, l'idée, c'est quand même que plus tard, ils aient une réforme des retraites. Moi aussi, le coup du banquier qui me dit, mais vous, d'ici là, vous aurez jamais de retraite. On me l'a toujours dit et tout. Et ça, c'est un argument, Gabriel Adonnel, qu'on oublie de dire. En fait, il ne fait pas une réforme des retraites. Enfin, je veux dire, elle est nécessaire, cette réforme des retraites. Si on veut que plus tard, la génération qui a 15 ans, 20 ans, 25 ans aujourd'hui, ait une retraite plus tard. Ouais. Il ne faut pas oublier ça parce qu'on parle tout le truc de l'altruisme. Moi, je pense aux autres générations, je pense pas forcément qu'à moi, etc. Oublions pas la jeunesse.
Mais moi, je pense aussi à moi.
Ben non, mais on peut penser à soi aussi. Et on peut penser aussi aux jeunes générations qui vont arriver.
Exactement.
Avec l'idée de métier pénible ou pas, mais qu'ils aient une retraite eux aussi.
Merci beaucoup Gabriel, tiens, peut-être futur porte-parole du gouvernement qui a beaucoup plu à Benjamin Muller. Et merci à Olivier Roucan d'avoir été notre invité sur ce débat très clivant pour le coup. Rémi, on va terminer avec des messages et puis le résultat de notre sondage sur Twitter.
Mais j'ai des messages notamment qui reviennent un peu sur le passé de Cédric qui nous dit comment peut-on prendre le président Hollande comme exemple. Il a fait quoi en dehors de détruire les réformes Sarkozy? Non mais il faut arrêter de prendre les gens pour des idiots. Non, je ne suis pas contre cette réforme et même au contraire.
Ah, donc il y en a.
Je l'ai cité parce que c'est pas souvent qu'on a ce type de message en ce moment.
Dire, voilà. Mais d'où sort-il?
C'est Cédric qui nous écrit sur Direct Studio et on vous a posé la question. Donc, Emmanuel Macron sort du silence, doit-il s'adresser aux Français? À une petite majorité en ta faveur, Estelle, tu aimerais bien l'entendre. Eh bien,
j'ai défendu seul contre tous.
Ouais, 59% des personnes interrogées sur nos réseaux sociaux aimeraient bien entendre le chef de l'État.
Ouais, mais je crois qu'on l'entendra pas.
Non.
On a envie,
pas tout de suite,
mais,
en tout cas.
Mais on l'entendra pas.
Une fois
pas.
Que ce sera fait.
Dans un instant, il y aura le zapping, le meilleur d'RMC. On se demandera si nos ministres sont en train de craquer après les doigts d'honneur d'Éric Dupont-Moretti. Et puis le petit coup de sang de Marlène Schiappa. Et puis les ZFE vont-elles faire descendre les Français dans la rue? Ça aussi, c'est un sujet qui cristallise beaucoup.